La voix est libre. Et la voix est libre pour Daniel Mermès, c'est là-bas si j'y suis. Oui.
Oui, salut à toutes et à tous. Entendu hier soir, pendant les infos, l'avocat, braqueur, donc bijoutier, qui a été tué suite aux manifestations de soutien au bijoutier mis en examen pour avoir tué le braqueur. L'avocat du braqueur a dit la chose suivante. La justice, c'est pas Twitter. La justice, c'est pas Facebook. La justice, je rajoute, c'est pas un flash mob, hein, les enfants. On est bien d'accord. La justice, c'est pas un clip de Lady Gaga. La justice, c'est pas le Gangnam Style. Ciao.
Ah, ça fait plaisir. Depuis la mort d'Albert Jacquard, les médias ne parlent que de ça. Les chaînes ont totalement bouleversé leur programme pour rediffuser qui une émission lui étant consacrée ou un documentaire, qui des morceaux d'interview, etc. Les hommes politiques, tout comme les intellectuels, les artistes, ne cessent de lui rendre hommage. D'importantes forces de police ont été mobilisées pour assurer la sécurité lors de son enterrement, tant le nombre de personnalités prévues est important. Et hein? Quoi? Comment ça, il n'y a rien de tout ça? Oui, ben je sais. Et alors, laissez-moi rêver, quoi. Ah, faites chier à la fin.
Voilà, je viens de voir un truc assez énervant sur le 20h de France 2, là, ce lundi soir. C'est un petit reportage qui parle du livre de Piketty sur le Capital, et le journaliste en voix off souligne bien que c'est un économiste de gauche. C'est marrant parce que dans le journal de France 2, quand c'est un économiste de droite qui parle, jamais la voix off ne dit « c'est un économiste de droite ». Ça, aïe aïe aïe. Allez, salut, c'était Christophe de Poitiers.
Au cimetière, un escargot, l'âme vagabonde, fait l'ascension d'une sépulture. Escalader le toit du monde est loin d'être une sinécure. C'était le triste poète. Salut.
Bonjour. J'ai trouvé bien édulcorée l'image de Jaurès qui a été donnée hier. Quand on entend le discours que Jaurès a fait quelques jours avant sa mort à côté de Lyon contre la guerre, c'était quand même autre chose. Et entre autres, cette phrase bien connue qui dit que le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Ça veut quand même dire ce que ça veut dire. Et il en appelle à l'une des classes et aux prolétaires, et c'est pas du mou comme ce que nous sert le PC aujourd'hui. Et il faut se rappeler que les socialistes, le Parti Socialiste, avait déjà trahi le peuple, puisque quelques jours après la mort de Jaurès, ils se sont engouffrés dans la Première Guerre mondiale en signant les crédits militaires dans toute l'Europe. Et c'est la première trahison connue et identifiée de la social-démocratie à l'égard du peuple qui la soutenait. Au revoir.
Eh ouais, à chacun son Jaurès. On va en parler beaucoup de Jaurès pour l'anniversaire de son assassinat le 31 juillet 1914, quelques jours en effet avant le déclenchement de la grande boucherie. Jaurès, célébré à la fête de l'humanité, s'est rappelé que Jaurès fut le fondateur du journal L'Humanité. Aujourd'hui, dans la Bastille, j'y suis, fête de l'UMA deuxième partie, Teuf de l'UMA, avec les Hebda, qui chantent le poète chilien Victor Jara, Kateb Yassine et même Jean Ferrat, avec Gérard Filoche, le débordant Gérard Filoche, qui va nous parler de Lani. Vous savez pas qui c'est, mais lui le sait, et il va nous en parler. Et puis Monique et Michel Pinson-Charlot, autour de leur récent bouquin qui sort ces jours-ci, « La violence des riches ». Voilà, tout ce que je vous dis là n'a guère intéressé les vrais grands médias. Ce qui a intéressé les vrais grands médias, c'est les divisions. Ah oui, c'est les divisions du front de gauche, le fossé qui se creuse entre le PC et le parti de gauche. Vieille ficelle, inusable ficelle, quoi qu'il en soit, nous voici à la fête de l'UMA. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Ouais, salut Daniel, c'est pour dire aux habitants du sud-est qui sont dans l'est varois que ce week-end, samedi, il y aura une journée sur la gestion et la revalorisation des déchets à l'initiative du comité d'initiative citoyenne de faïence, tu vois, nous aussi on a notre moto, Et le week-end d'après, on fera un repère un peu exceptionnel avec Thierry Palladino et la projection de son film La Machine. Et puis le week-end d'après, on vous en reparlera, on sera au Festival du Livre avec les éditions Agone, avec les Mutins de Pangée, avec Joli Môme, les éditions Fakir et le bouquin de François Ruffin. Ciao vive, portez-vous bien.
Bonjour, c'est Cosette. Un peu de poésie inspirée de Fakir le journal. Je suis le chaînon manquant entre le hier et le maintenant, de la tête vide à la compréhension du moment. Je suis le chaînon manquant entre la science et l'expérience du raté social à la saleté nationale. Je suis le chaînon manquant de la tête à remplir à se la faire vider gentiment en consommant. Je suis le chaînon manquant, flirtant pas avec le firmament, sans prothèse ni catéchèse, au grand jeu de la chaise musicale. Je suis le chaînon manquant, en manque d'individuation, au bal masqué et nu, j'ai toujours avancé. Je suis le chaînon manquant, un fait marquant entre la bêtise et la réflexion, on laissera trancher l'actionnaire qui a toujours su rien faire, sauf si, on reconnaît enfin tout le chaînon manquant, manquant le train pour la grande douche de schiste des moutons de Panurge. On est les chaînons manquants, des zones à défendre, des combats à reprendre. Avec mon salaire irrévocable, je pourrais y aller dans mes vocales, et dans ton champ repoussera le printemps sans organisme génétiquement merdique. On est des chaînons manquants, et on voudrait marquer le tournant de la toupie politique qui a vraiment plus d'éthique. Devenons les chaînons manquants, des chaînons manquants.
Chers AMG, bonjour, et plus particulièrement bonjour aux AMG du Bourbonnais. La saison recommence, ainsi Brigitte, Stéphane et Gérard vous invitent à participer à la prochaine édition du Café Repère, là-bas si j'y suis, le jeudi 19 septembre prochain, au Café Librairie Le Goût des Autres, situé 10 place Max Dormois à Moulins, à 19h. Le thème abordé sera... Les retraites, nouveaux modes de vie, nouveaux modèles. Nous vous attendons nombreux et bonne journée à vous, bon week-end.
À gauche maintenant, l'événement de ce week-end, c'est la fête de l'humanité et la réunion des militants communistes et du Front de Gauche à la Courneuve.
Trois jours de fête qui n'auront pas permis aux deux leaders du Front de Gauche de se réconcilier.
Car à l'aube des municipales, Jean-Luc Mélenchon et Pierre Laurent ont bien du mal à s'accorder sur une stratégie électorale commune.
Jean-Luc Mélenchon et Pierre Laurent sont toujours en total désaccord.
C'est un point sur lequel le partenaire de Front de Gauche, le parti de gauche, n'est pas d'accord.
Sur la stratégie à adopter vis-à-vis du Parti Socialiste,
pas d'accord.
Pour les prochaines élections municipales, total désaccord.
C'est normal, c'est un front, le Front de Gauche, donc il y a des débats. C'est normal.
Salut, c'est Daniel Mermès et là-bas, si j'y suis avec toute la bande, la teuf de l'UMA. Alors, Gérard Filoche, on vous a demandé de venir pour nous expliquer ce que vous qualifiez de loi scélérate, c'est-à-dire l'accord national interprofessionnel qui a été promulgué en juin dernier, appelé ANI, A-N-I. Pourquoi qualifier cette loi de loi scélérate, mon cher Gérard Filoche ?
Dans l'accord qui a été dicté par le MEDEF le 11 janvier, il y avait 28 articles, et ils étaient tous mauvais, tous contre le Code du travail. Et dans la loi, on doit rester à 17 articles... Elle a été aggravée, c'est peu connu, le 13 juin, par le Conseil constitutionnel, avant d'être promulguée le 14 juin. C'est une loi scélérate parce que, par exemple, sur les complémentaires santé qu'elle instaure, seul l'employeur pourra décider d'où ça va. C'est ce que le Conseil constitutionnel a dit au nom de la liberté d'entreprendre et la liberté depuis 89. Et du coup, c'est 4 milliards qui iront dans les poches d'AXA, de Generali et d'Alliance. Et pas du tout dans les caisses des sécurités sociales ou pour l'intérêt des salariés concernés. Et l'ANI, tous les articles sont mauvais, commencent à s'appliquer de façon catastrophique. Vous avez des plans sociaux accélérés, quick, fast, qui sont en train de se mettre en place, qui ont commencé chez Michelin à jouer les tours, qui se développent dans telle imprimerie, qui avait pourtant des milliards de bénéfices, et qui sont peu à peu en train de se mettre en place, entreprise par entreprise, en commençant par des plans de mutation interne volontaire ou externe volontaire, cassant les carrières. Et si les gens refusent, eh ben, ils seront licenciés à titre individuel. Et comme ils sont obligés d'accepter, eh ben, ensuite, après, on leur impose des transformations avec des allongements d'horaires, avec des baisses de primes, avec des conditions de salaire beaucoup plus basses, comme c'est le cas à PSA. C'est-à-dire que l'ANI, devenue une loi, la loi scélérate du 14 juin,
commence à faire des ravages dans le cadre du salariat, de ses droits, et commence à augmenter le chômage, contrairement au titre de la loi, à s'appeler « sécurisation de l'emploi ». Remarquez, j'ai écouté Flore Pellerin dans une chaîne de télévision hier soir. Elle a concédé que la loi était une loi de flexibilisation et pas de sécurisation. Ben, c'est bien la vérité. La gauche n'a pas été élue pour ça. La gauche, celle que j'aime, celle que je défends, elle fait avancer le code du travail, elle ne fait pas reculer. La gauche, elle n'avait pas pour
mais
mandat.
Mais vous appartenez à cette majorité quand même,
mais
Gérard.
Oui, sans aucun problème, parce que je veux la changer. Je ne supporte pas que cette majorité qui a été élue pour redresser le code du travail, pour lutter contre la précarité, pour contrôler les licenciements, elle ouvre la porte à des négociations avec le MEDEF qui aboutissent au contraire. Et le MEDEF, lui, il en profite à 300%.
Ils étaient très contents de cette...
Mais sans aucun problème. On leur propose 20 milliards de crédits d'impôt, ils en demandent 100 milliards. On leur donne un doigt, ils prennent la main. On leur donne la main, ils prennent le bras. Ils sont pas pour autant reconnaissants à la gauche. Parce que déjà, ils s'apprêtent à soutenir Copé pour qu'ils puissent faire 100 fois plus demain. Et donc, c'est ça le processus qu'il faut dire. Merci à chaque fois de me donner la parole. Je veux me faire entendre de François Hollande. Je veux me faire entendre de Jean-Marc Ayrault. Je veux me faire entendre du gouvernement de gauche. Parce que c'est ce gouvernement-là qui doit faire la politique de gauche. Je veux pas que la droite revienne. Je veux pas que ça permette la victoire de Copé et de Le Pen. Je veux que la gauche qui a gagné en mai-juin dernier 2012, elle se fasse entendre aujourd'hui. C'est pareil sur les retraites. Il y en a qui présentent la réforme des retraites comme étant soft. Elle serait habile. Il y aurait des avancées sociales dedans. Il n'y en a aucune, c'est comme l'ANI. Elle conserve ce qui a été fait par Fillon et Sarkozy et elle le prolonge. C'est-à-dire l'allongement des annuités de cotisation et les gens, ils croient que ça commence en 2020. C'est pas vrai. Ça continue parce que Fillon l'a prévu jusqu'en 2020. Et maintenant, ça va être de 2020 à 2035. Et je comprends pas mon gouvernement. Il fait un séminaire sur le plein emploi en 2025. Ils sont sérieux. Parce que s'il faut le plein emploi en 2025, c'est pas la peine d'allonger les annuités pour 2035. Ils ont réfléchi longtemps avant de dire ça.
Alors si ça se trouve, on a voté pour la gauche, mais c'était pas vraiment la gauche.
Mais on a bien voté quand on a voté contre Sarkozy. C'était le bon geste à faire. Il faudra le refaire s'il faut battre Copé. Mais après, faut pas rester les deux pieds dans le même sabot. Parce que si le MEDEF est plus puissant pour pressionner le gouvernement de gauche que nous, faut aussi que nous, on se mobilise. C'est les mobilisations du 10 septembre, c'est les mobilisations de la semaine prochaine, le 18, c'est les mobilisations après. S'il n'y a pas de mouvement social, le gouvernement de gauche fera la politique sous la pression de la droite. Ça dépend de nous aussi, ça dépend pas seulement d'eux.
Gérard Filoche, qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle en général des luttes dans le pays, le climat général?
Mais ce que je disais, c'est l'exemple de PSA, je crois qu'on n'a pas de meilleur exemple. La direction de PSA s'est tout permis. Elle leur retire les primes de nuit. Elle leur retire des concessions qui avaient été faites sur les heures supplémentaires qui allaient jusqu'à 45%. Elle va leur retirer des éléments de salaire qui avaient été négociés. Et ils font tout ça comme un bloc, brutalement. Parce qu'ils se sentent encouragés. Parce qu'ils disent, bon, bah, si le gouvernement fait ça dans les conditions actuelles, les gens vont s'écraser. Et pourtant, la direction de PSA, elle est comme toutes les autres directions. Elle a donné 6 milliards à ses actionnaires. L'autre jour, je me suis fait reprendre dans une radio. On m'a dit, ah non, pas dans les 3 dernières années. Ben non, pas dans les 3 dernières années, dans les 6 dernières années. Les 6 milliards, c'était 2 milliards 100 millions pour les actionnaires et 2 milliards 86 millions pour la famille Peugeot pour qu'elle reprenne le contrôle de Peugeot au cas où il y aurait une succession. Alors, j'ai calculé à quoi servaient ces 6 milliards. Si on voulait garder les 8 000 postes chez Peugeot, 8 000 qui sont en cause, 8 000, on pourrait les payer avec les 6 milliards à 3150 euros pendant 20 ans. S'il n'y avait pas donné 6 milliards aux actionnaires, c'est ça sur lequel il faut mettre le doigt. Pour que des millions de gens voient ce qui se passe et qu'on n'a pas besoin de prendre des petits centimes sur nos petites retraites, des petits centimes sur nos petits salaires, mais que l'argent est là, en face. Et je ne vais pas me faire applaudir tout le temps, c'est un socialiste qui vous parle. Et c'est important que ce soit un socialiste qui le dise.
Oui.
Parce que, ouais, je savais, je l'ai provoqué. Parce que s'il n'y a pas des socialistes pour le dire aussi, nous avons moins de chances de gagner. C'est parce qu'il y a des socialistes qui le disent qu'on a plus de chances de gagner.
Il y a deux personnes qui vous écoutent, Gérard. Ils sont là, une dame et un monsieur. La dame, c'est Monique Pinson-Charlot. Et le monsieur, c'est Michel Pinson. Ils sont très attentifs, ils écoutent très gentiment le camarade Gérard Filoche. Je voudrais savoir un petit peu ce que vous pensez de ce que vous entendez là, Monique.
Ah ben moi, je bois du petit lait, mais en même temps, je ne suis pas surprise Parce que d'abord, je suis passée à la télévision avec Gérard Filoche et on était bien copains tous les deux chez TADI. Et puis alors surtout, il y a quelque chose qui nous a réunis le 24 août dernier à l'université d'été du PS de La Rochelle, où j'ai été invitée. Et on n'était pas dans la même séance plénière, mais tu m'as dit que tu recevais des SMS. Monique Pinson-Charlot fait un tabac à la séance plénière avec Bernard Cazeneuve, le ministre du Budget. C'était sur les paradis fiscaux. Et j'ai été très surprise. Je défendais l'idée que les paradis fiscaux n'étaient pas une arme de destruction massive contre les États, comme le prétendaient la plupart des dirigeants socialistes présents à cette table ronde, mais que l'État était complice et que l'État socialiste, y compris l'État socialiste, était au cœur des paradis fiscaux, dans la complicité avec les paradis fiscaux. Et la salle m'a applaudi. Et Gérard Filoche en est témoin. Et du coup, depuis le 24 août, c'est vrai que je me suis dit, il faut travailler avec tous ceux qui ont une conscience de gauche, mais pas de gauche libérale, de vraie gauche critique pour un changement radical. Et je pense que nous pouvons être main dans la main.
Je le pense aussi.
Merci en tout cas, Gérard Filoche. Vous pouvez rester là, hein, on va parler du bouquin de Monique et Michel, qui sort aujourd'hui.
C'est... Non, il est sorti hier.
Hier.
Ah, toujours en retard, hier. Daniel Mermet.
Et vous êtes... Vous m'avez dit, oui, on essaiera de venir, mais on a 1000 bouquins à signer, c'est vrai?
Oui.
Mais c'est Stakhanov, enfin, à bas les cadences infernales. Comment on peut résumer votre bouquin? Des chroniques de la financiarisation de l'économie et de la vie?
C'est un travail sur les violences des puissances d'argent, concrètement de la haute société, de la grande bourgeoisie, sur les classes moyennes et surtout les classes populaires. Bon. Alors, il y a le problème du Parti socialiste. Alors là, dans le bouquin, on parle du Parti socialiste. Et dans ce bouquin, on met en évidence que les changements du Parti socialiste datent de 1983, du virage vers la rigueur du gouvernement de Mitterrand. Et à partir de là, ça a été une adhésion au libéralisme par les responsables du Parti socialiste. Il y a un livre qui a été écrit en 1984. Parmi les signataires, il y avait Jean-Pierre Jouyet, qui maintenant est le patron de la Caisse des dépôts. Il y avait Jean-Yves Le Drian, qui est ministre de la Défense. Et il y avait, cerise sur le gâteau, François Hollande, qui est président de la République.
Oui, ça c'est intéressant. Moi, je ne connaissais pas ce bouquin. En 1984... François Hollande.
Édité par en catimini, édité chez Jean-Claude Lattès.
C'est ça.
Aujourd'hui, ils appliquent ce qui est le programme de cette nouvelle gauche modérée, le moins qu'on puisse dire. Nouvelle droite, on pourrait dire aussi. Leur programme, c'est un programme purement libéral. La concurrence, le marché, la libre circulation des capitaux, etc.
Quelqu'un qui ne vous connaîtrait pas tous les deux se dirait, bon, ben, alors, on l'a compris, ce sont des militants de gauche, quoi, d'une gauche assez radicale.
Qui ça, nous Charles,
vous deux.
Ah, nous deux.
Vous êtes sociologue, quand même.
Ah ben, on reste sociologue, là, je suis désolée. Hein. Quand on est bon sociologue dans une société aussi inégalitaire, aussi violente que la nôtre, nous, on décrit même une situation de guerre de classe. On parle d'une guerre que les plus riches mènent contre les plus pauvres, avec des armes qui sont financières. C'est un état du rapport de force qui est à la défaveur des classes populaires. Et donc, nous sommes des sociologues militants, si vous voulez. Nous, on n'a pas honte. Nous, on fait notre vrai boulot de sociologue. Et c'est plutôt les autres sociologues qui sont dans leur tour d'ivoire au CNRS et ailleurs qui ne font pas leur boulot. Parce que dans notre société, c'est des sociologues de combat qui devraient être en nombre autour de vos micros, cher Daniel Mermet.
Sociologues de combat. Bon. Gérard Filoche, Michel Pinson, Monique Pinson-Charlot, ce qu'on évoque là, les effets de cette financiarisation de l'économie, on ne cesse de les décrire. Il y a eu un papier dans Le Monde diplomatique de ce mois-ci, de Serge Halimi, en essayant de trouver des idées pour une reconquête. J'aimerais vous entendre là-dessus, les uns et les autres. Quelles idées vous pouvez avoir? Qu'est-ce que vous proposez? Quelles pourraient être des idées pour une reconquête? Gérard Filoche.
Bon, moi, je crois qu'elles sont simples. 35 heures vers 32 heures, 60 ans vers 55 ans, un SMIC à 1700 euros et pas de salaire plus supérieur à 20 fois le SMIC. Tout le programme n'est pas dur. C'est pas le programme qui est dur. C'est la mise en confiance de tous ceux qui sont militants sur ce programme. c'est-à-dire l'unité. S'il n'y a pas l'unité sur un programme commun de ce type, on ne peut pas y arriver. Chacun a son point de vue. Chacun peut défendre ceci, ceci, cela. D'ailleurs, toute une partie de ces revendications seront justes. Mais il faut aller au cœur du problème, qui est de la redistribution des richesses. Et la redistribution des richesses, il nous répondra « Ouais, mais il faut d'abord les fabriquer. » J'ai eu ça comme argument, moi, dans mon parti. On m'a dit « Ah, ben, Gérard, tu comprends pas. On fabrique les bonbons, on les distribuera plus tard. » J'ai trouvé que c'était quand même vulgaire. Il fallait d'abord considérer qu'il y avait les bonbons et qu'on pouvait les distribuer et qu'en plus, ce serait une sortie pour l'économie. C'est-à-dire que ça relancerait. C'est pas baisser les salaires, c'est d'augmenter les salaires. C'est pas de diminuer les retraites, c'est d'augmenter les retraites. C'est pas de faire qu'il y ait des heures supplémentaires à nouveau défiscalisées. On réduira pas le chômage de masse sans réduire la durée du travail. Ça ne s'est jamais fait. Le code du travail, c'est l'histoire de la réduction du temps de travail. De 1936 à 2002, on a réduit la durée du travail. On est passé de 40 à 39 à 35. Et tout ça en créant de l'emploi.
En augmentant la productivité.
Et même en augmentant la productivité, bien sûr. Alors, toutes les solutions, on les a. Le problème, c'est qu'il y a une dictature de la finance, nous le savons tous, nous la dénonçons tous les jours, qui pressionne à tous les niveaux médiatiques, à tous les niveaux politiques, et il faut pour ça qu'il y ait un mouvement social qui soit plus fort. C'est pour ça que je parlais de 36 tout à l'heure. Parce que 36, c'est là où il y a la grève, en plus du gouvernement Blum. S'il y avait eu Blum tout seul, je ne suis pas sûr qu'on aurait eu les 40 heures, c'était pas dans son programme. S'il y avait eu Blum tout seul, je ne suis pas sûr qu'on aurait eu les congés payés, c'était pas dans son programme. C'est parce qu'il y a eu Blum, plus la grève. Et c'est la grève qui a pesé sur Blum, plus fort que le patronat.
Alors là, je me tourne vers les sociologues. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cette poussée, cette pression actuelle ? Effectivement, qu'on a observé, qu'on a vécu et qu'on a applaudi en 1936. Comment expliquer cette atonie ?
Alors, c'est compliqué. Mais en écoutant Gérard Filoche, c'est vrai qu'on se dit « Bravo Gérard Filoche, c'est super et tout ». Et en même temps, on ne parle pas de la même façon, nous et toi. C'est-à-dire que toi, tu te places sur le plan quand même de l'expertise, tu penses qu'on doit pouvoir améliorer, alors que nous, on pense qu'on n'est pas dans une récession banale, on pense vraiment qu'on est dans une situation de guerre à l'échelle du monde et que cette guerre des classes, on ne la vaincra, on arrivera à y faire face, me semble-t-il, qu'avec des outils qui ne soient pas des revendications d'amélioration de ceci ou de cela, mais d'un renversement complet d'un rapport de force qui aujourd'hui nous est complètement défavorable.
Oui, mais ce que dit Gérard me semble très radical en vérité, non ?
Moi, si je peux me permettre, je vais me faire huer encore, mais la traduction de la Révolution française telle que je la vois, les gens avaient faim. Alors ils sont allés chercher du pain auprès de Marie-Antoinette. Cette bêtasse leur a dit « Si vous n'avez pas de pain, mangez de la brioche. » Alors ils lui ont coupé la tête. Mais s'ils étaient partis de Paris en disant « On va couper la tête à Marie-Antoinette », il n'y aurait eu personne au début. C'est-à-dire que le cheminement de la conscience des gens, il est toujours comme ça. Je suis sûr qu'il y avait eu un débat à Paris, on n'y était pas, mais il y en avait qui disaient « Faut faire la République ». Il y en a d'autres qui disaient « Faut abolir les privilèges ». Il y en avait même qui voulaient abolir les privilèges avant de faire la République ou faire la République avant d'abolir les privilèges. Il y en avait même qui étaient pour rompre avec la signa, l'euro. Tout ça, ça devait être un préalable à aller chercher du pain. Mais c'est quand on va chercher du pain que les choses bougent. Parce que tout le monde est d'accord pour aller chercher du pain. Et à ce moment-là, la conscience sur toutes les autres questions, c'est-à-dire tous les autres points du programme, tous les points que tu dis radical, c'est à ce moment-là qu'ils arrivent et qu'ils sont compris par des millions de gens. C'est comme ça le cheminement.
Merci. Il y a un exemple sur lequel on pourrait discuter. C'est ce triste anniversaire du 11 septembre qui a marqué la fin des 1000 jours de l'Union populaire au Chili et de Salvador Allende. Là, on avait, je me souviens de cette époque, des discussions à n'en plus finir sur réforme, révolution, radicalité. Ça a été un grand sujet de conversation en France. Et puis l'influence que l'on sait des réfugiés chiliens. Je dis ça parce qu'on a nos amis les Hebda qui sont en train de se préparer. Ouais, vous êtes prêts les gars ? Et les Hebda sortent un hommage à Victor Jara. Les Hebda à la fête de l'humanité dans la Massue, j'y suis.
laisse tomber, sa vieille ardeur se rallume. Et même fusillés, les hommes s'arrachent la terre. Et même fusillés, ils tirent la terre à eux comme une couverture, et bientôt les vivants n'auront plus où dormir. Et sous la couverture, aux grands trous étoilés, il y a tant de morts tenant les arbres par la racine, le cœur entre les dents.
Le cœur entre les dents. Il y a tant de morts crachant la terre par la poitrine, pour si peu de poussière qui nous monte à la gorge, avec ce vent de feu, 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 avec ce vent de feu. N'enterrez pas l'ancêtre tant de fois abattu, laissez-le renouer la trame de son massacre. Pareil aux jambes d'eau tremblant qui nous transpercent, nous ramenons à notre gorge la longue escorte, la longue escorte des assassins, des assassins, des assassins. Il y a tant de morts crachant la terre par la poitrine, pour si peu de poussière qui nous monte à la gorge, avec ce vent de feu, avec ce vent de feu, avec ce vent de feu. C'était une musique de Victor Jara et un texte de Kateb Yassine. Une autre chanson très théâtrale, ça s'appelle Ni Chicha ni Limona. On pourrait traduire ça par genre mi figue mi raisin. Enfin, raisin, vous dites-vous, vous direz, c'est pareil. Ok. Victor Jara. Un petit chabi, un petit chabi chilien, là. Hein, c'est un peu algérien comme musique, non? Comme ça. A mí no se más pa' acá, aquí donde el sol calienta. Si usted está acostumbrado a dar dando volteretas, y ninguna llorará estar donde las papas queman. Usted no está, no es chicha ni limona, se lo pasa mal, o sea, no caramba, ama su dignidad. La fiesta está comenzado y la cosa está que arde. Usted gana más que dao, que en el adrenal del baile. Total era solo fatío, valor que se desescape. Usted no es ya, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, ama su dignidad. Usted no está, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, ama su dignidad.
Dignidad.
Si queremos más fiestoca, primero hay que trabajar. Y tendremos patoitos abrigo para amistad. Si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted nomás. La cosa va para adelante y no piensa de curar. Usted no es ya, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, ama su dignidad. Usted es ya, no es ya, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, ama su dignidad. Ya déjese de patillas, venga a remediar su mal. Si aquí debajito el poncho, no tengo ningún puñal. Y si sigo siconeando, le vamos a expropiar las pistolas y la lengua y todo lo demás. Usted no está, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, ama su dignidad. Usted no está, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, ama su dignidad.
lo pasa manoseando, caramba, samba su dignidad. Se lo pasa manoseando, caramba, samba su dignidad. Dignidad, joya, dignidad, joya.
Merci. Les Zeltas. Être un guitariste chilien, hommage à Victor Jara, Mousse, merci, c'est un bonheur de te retrouver, c'est vraiment un bonheur de me retrouver, comme à chaque fois.
Merci. Bonsoir, merci beaucoup.
Hey, je me suis fait tout à l'heure imprimer un texte immortel que vous avez écrit en 2001, il y a 12 ans, qui s'appelait « Allez, oust ».
Ça me dit quelque chose.
Ouais. « Allez, oust ». Et ça rimait avec « doust ».
Eh oui, parce que c'était lui, candidat.
Voilà. Et tous les jours, dans la basse usicie, on avait des auditeurs qui n'avaient pas compris la rime. Alors, on disait, alors, on a des auditeurs qui nous ont appelés pour nous dire « on n'a pas compris la rime avec « oust ». Alors, on disait, d'accord, on va être obligé de rediffuser un extrait. Et ça a duré comme ça pendant des jours et des jours. Donc là, revoilà les hebdas autour de Victor Jara. Ça tombe très bien avec nos amis les Pinsons Charlot parce qu'ils ne sont pas seulement sociologues des riches, ils se sont intéressés aux riches et par voie de conséquence aux pauvres aussi, mais vous êtes intéressé aussi par le Chili. Monique ?
Très rapidement, en 1973, on a parrainé des militants communistes qui étaient emprisonnés et dont une femme allait accoucher d'un bébé. Et que nous avons parrainé jusqu'à aujourd'hui, et nous parrainons aujourd'hui la petite fille de notre petite filleule. Et puis, il se trouve que ma meilleure amie a épousé le juge Juan Guzmán, celui qui a un peu embêté Pinochet, et pas mal embêté Pinochet. Et puis enfin, dans nos analyses du néolibéralisme, vous savez que c'est le Chili qui m'a paradoxalement, malheureusement, a été le laboratoire pour l'école de Chicago, pour mettre en place un système d'une violence effroyable. Et le Chili donne entièrement raison, rétrospectivement, à notre travail sur la violence des riches, puisque tout a été télécommandé avec la complicité de l'oligarchie chilienne depuis les États-Unis, dans une violence inouïe pour instaurer le néolibéralisme. Et le conseiller de Pinochet n'était autre que Milton Friedman.
Et en 1973... Henry Kissinger a eu le prix Nobel de la paix. Il n'y a pas eu que le coup d'État à Santiago. Et aussi, c'est l'année où Kissinger, qui avait consacré un budget de 10 millions de dollars pour monter le coup d'État, a reçu le prix Nobel de la paix cette année-là. Nous ne devons pas laisser l'Amérique latine penser qu'elle peut emprunter ce chemin sans en subir les conséquences. C'est Richard Nixon qui a dit ça au lendemain de l'arrivée de l'Union populaire en novembre 70. Donc, on déplore évidemment le malheur, la misère et la souffrance des Chiliens, mais il y a tout cela évidemment des causes. Qu'est-ce qui vous a intéressé, les hebdas, sur Jara ? Pourquoi Jara ?
Ce qui est intéressant, c'est la résonance pour les générations qui ont suivi, et pour tous les gens qui n'ont pas forcément suivi de près ce militantisme politique à cette époque-là, la résonance de l'artiste. C'est-à-dire que c'est quoi être artiste, quel rôle on joue, à quoi ça sert, tout ça. Et que à partir du moment où nous, dans l'adolescence, on avait une image, parce qu'on allait quelquefois à la fête de l'UMA à Toulouse, c'est sûr. Donc on avait une image comme ça d'un artiste engagé avec ce petit supplément d'âme que nous on considère comme un supplément d'âme, c'est-à-dire de dire des choses quand on chante ou de porter une parole qui va au-delà du fait simplement d'accompagner l'amour ou la mélancolie ou la nostalgie, ce qui est aussi le rôle de la musique, mais la musique c'est aussi d'accompagner les gens dans le mouvement, dans la lutte. Et donc voilà, Victor Jara, du coup, il avait cette image-là pour nous. Et on fait un album l'année dernière, on a une chanson qui s'appelle Le Talent, on fait une référence à Victor Jara, un petit peu subtil, je l'accorde, on dit dans un texte, c'est difficile d'écrire de la poésie dans mon quartier, en gros, sous peine de finir un guitariste chilien.
C'est-à-dire, il faut rappeler, tu ne l'as peut-être pas précisé assez, il a été arrêté au lendemain du coup d'État, il a été torturé par les militaires qui lui ont demandé de jouer, il a refusé de jouer, ils lui ont coupé les doigts à coups de hache et ils l'ont ensuite assassiné. C'était le 16 septembre 1973.
Exactement, et donc nous on faisait cette référence-là, et puis on fait plein d'interviews, et puis on nous dit « Mais qu'est-ce que vous avez contre les guitaristes chiliens ?» Enfin, notamment des journalistes. Donc on se dit « Ah, on en sait peut-être un peu plus que vous ». sur Victor Jara. Donc ça nous a semblé intéressant d'en reparler, de faire un travail là-dessus. Et même pour nous-mêmes, c'est toujours pareil. C'est cette idée que cette transmission, on se la fait à nous-mêmes. Du coup, on découvre ces chansons, on les traduit, on voit comment ils fonctionnaient, quelle était sa manière de se positionner. Et voilà, ça c'est super instructif.
Dans le dernier discours, ou l'un des tout derniers discours de Salvador Allende, il emploie le mot « semence », la semence du socialisme, etc. Et c'est très beau ce mot « semence », parce que, bon, là, on déplore, évidemment, la mort d'Allende, le coup d'État réussi de Pinochet, mais enfin, aujourd'hui, on a l'Équateur, on a le Venezuela, on a la Bolivie, on a un mouvement étudiant très fort au Chili, et cette année, le 40e anniversaire du coup d'État est célébré d'une manière beaucoup plus intense que les décennies précédentes. Donc non, c'est pour dire qu'il y a un drame, et comme c'est vécu comme une défaite, comme un échec et comme un drame, mais il y a aussi ce que Walter Benjamin appelle le souterrain des choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui disparaissent, et puis quelques années, quelques temps plus tard, ça ressurgit. Exactement comme tout d'un coup, vous vous mettez, vous, oui, à ressortir.
Et on fait même des liens très actuels, c'est-à-dire qu'on se pose la question de... On se rend compte qu'on a beaucoup à apprendre de l'Amérique du Sud sur son rapport à sa musique, c'est-à-dire la place, le rapport au populaire, en fait, par rapport à ici. C'est-à-dire qu'il y a quand même un petit fossé qui s'est creusé en Europe, je dirais, sur... en France en particulier, sur le rapport à la musique populaire, c'est-à-dire quel est le lien au-delà de la consommation. Victor Jara, il a cette force aussi parce que sa musique est profondément populaire. Elle est profondément ancrée dans les populations et dans le rapport qu'il a avec les gens. Donc c'est cette notion d'éducation populaire qu'il y a derrière. Je pense que c'est ce qu'il voulait aussi.
Vous avez devant vous Georges Bartoli, qui est un photographe, qui publie un grand bouquin sur le Chili et qui a arpenté cette Amérique latine depuis des années dans tous les sens. Et c'est un livre magnifique. Vous le voyez, il suffit d'approcher votre œil du transistor et vous allez voir les photos de Georges. Comment ça s'est produit, ce bouquin? Comment ces photos, cette histoire, Georges?
Mais je crois qu'on est un peu de la même génération et de la même sensibilité que tous les gens qui sont autour de cette table. Moi, j'avais 16 ans le 11 septembre 73. J'avais 16 ans, je venais de m'ouvrir à la politique, à la conscience. Et le fils de républicain espagnol que j'étais venait de revivre l'histoire en direct, l'histoire de ses parents en direct, de retrouver de nouveau la barbarie qui met fin à la démocratie, et c'était juste insupportable. J'ai mis 40 ans à aller au Chili, 40 ans pendant lesquels je me suis imprégné de toutes les lectures possibles de Sepulveda, à Neruda, en passant par Coloane et tous les autres. Et je me suis surtout imprégné, comme les hebdas, des textes, des musiques extraordinaires de profondeur de Victor Jara ou de Aquila Payún ou de Violeta Parra, de tous ces gens qui ont formé, comme beaucoup de gens de ma génération, beaucoup de gens qui sont sur cette fête de l'humanité, parce qu'on s'y retrouvait tous les ans, pour les mêmes raisons, cette conscience politique qui nous a amenés là. Et il a fallu 40 ans pour que je puisse aller au Chili, alors que comme tu disais, je connais un peu l'Amérique latine.
Un peu.
Qu'on a parfois arpenté ensemble.
Oui, au Venezuela, oui.
Un peu comme si je gardais cette histoire pour la fin, comme ce besoin d'aller me confronter. Et je suis très sensible à ce que disait Monique Pinson-Charlot sur l'idée que un coup d'État militaire comme ça, c'est la double peine. La double peine parce que c'est la barbarie absolue, ce qui est arrivé à Victor Jara. Je suis allé dans le stade de Santiago, il y a des photos du bouquin des bancs sur lesquels a été torturé, exécuté Victor Jara. Mais c'est aussi la double peine parce que 40 ans après, non seulement ceux qui ont perpétré le coup d'État sont aujourd'hui encore les possesseurs de ce pays, se le partagent d'une manière comme des prédateurs sordides, sans aucune pudeur. Encore aujourd'hui, la gauche chilienne, malgré la semilla, ce que voulait qu'on plante Salvador Allende en mourant, la gauche chilienne est aujourd'hui défaite, en partie dominée toujours par l'école de Chicago, qui influence beaucoup le Parti socialiste chilien, comme le nôtre, malheureusement. Et donc c'est la prédation continue, la barbarie économique a succédé à la barbarie politique et militaire, mais dans le fond c'est toujours les mêmes qui la créent, qui la financent et qui en profitent.
Il y a un très beau plan dans le film de Bruno Muel, qu'il a tourné dans les jours qui ont succédé le coup d'État. Il a réussi à filmer l'enterrement de Pablo Neruda, comme tu sais, quelques jours après le coup d'État. Et il y a une tradition, je ne sais pas si c'est dans toute l'Amérique latine, mais en tous les cas c'était là ce jour-là, de citer le nom de la personne et de répondre « presente ». Voilà, il est mort. Non, il n'est pas mort. Il est présent. Et je vous propose de finir comme ça, en disant Jaurès, présent, en disant Allende, présent, et en disant Rara, présent. Et j'invite les hebdas à le prouver tout de suite. Merci à tous. Merci à tous et à toutes. Merci à nos amis, les salariés de Fralib, Sanofi et Kémoine. Merci à Gilles Candard pour Jaurès. Merci à Michel et Monique Pinson-Charlot pour leur livre « La violence des riches » que je vous recommande parce que c'est vraiment une école formidable d'observation et sur les chroniques de notre temps. Un grand merci aussi aux musiciens qui nous ont accompagnés, les Grandes Bouches et Zebda qui vont nous en faire encore une, il ne faut pas croire qu'ils vont s'en sortir comme ça. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission « Là-bas si j'y suis » ainsi que sur le site là-bas.org, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, on peut les applaudir Éric Audrin, Étienne Leroy, Alexandre James. L'émission a été réalisée par Jérôme Chélius et Franck Adhérer et préparée avec Pierre-Yves Bulteau et Jonathan Duong et Stéphanie Fromentin. Attends vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. Merci à tous, merci à toutes. Les hebdas pour finir. Merci. Salut.
Il y a des artistes français qui très tôt ont exprimé leur solidarité avec le peuple chilien. Et franchement, ça les a pas empêchés d'être populaires et de rester populaires. Vous l'avez compris, je parle de Jean Ferrat. Ok. Je vais dire la légende de celui qui s'est enfui et fait les oiseaux des Andes se taire au cœur de la nuit. Le ciel était de velours, incompréhensiblement. Le soir tombe et les beaux jours me retournent ses cobans.
Comment croire, comment croire au pape Jean soldats, quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda. Comment croire, comment croire aux papes des soldats, quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda.
Lorsque la musique est belle, tous les hommes sont égaux. Et la justice rebelle, Paris ou Santiago, nous parlons même langage et le même chant nous lie. Une cage est une cage en France comme au Chili.
Comment croire aux papes en des soldats quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda. Comment croire aux papes des soldats quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda.
Présente sous le fouet de la famine, terre, terre des volcans, le gendarme te domine, mon vieux pays arrogant. Pays double où peuvent vivre les lièvres et les pumas, triste et beau comme le cuivre au désert d'Atacama.
Comment croire aux papes des soldats quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda. Comment croire aux papes quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda.
avec tes forêts de hêtres, tes myrtes méridionaux. Oh mon pays de salpêtre, d'arsenic et de gouale, mon pays contradictoire, jamais libre ni conquis. Verras-tu sur ton histoire planer l'aigle des Yankees, yeah. Comment croire aux pas pesants des soldats quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda. Comment croire aux pas pesants des soldats quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda. Absent et présent ensemble, invisible mais trahi, Neruda, que tu ressembles à ton mal pays. Ta résidence est la terre et le ciel en même temps, silencieux, solitaire et dans la foule en chantant. Comment croire aux pas pesants des soldats quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda. Comment croire aux pas pesants des soldats quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda.
Presente.
Comment croire aux pas pesants des soldats quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda. Comment croire aux pas pesants des soldats quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda.
Allez-y, à vous, allez-y.
Comment croire aux pas pesants des soldats quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda.
Allez-y, à vous. Ces refrains sont les nôtres, c'est notre folklore.
Comment croire aux pas pesants des soldats quand j'entends la chanson noire.
Presente, presente, Itohara, presente.
Les 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant sur France Inter, il va y avoir un temps de pochon, mais ça ne va pas durer.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe, monsieur?
Eh bien écoutez, aujourd'hui on vient fêter la victoire des femmes de chambre et des gouvernantes du première classe Campanile-sur-Aisne, puisqu'effectivement, après la grande grève qu'on avait menée il y a 18 mois, qui a duré 28 jours, la direction, à l'occasion de difficultés qu'avait la société de nettoyage, donc sous-traitante, a accepté de réinternaliser les femmes de chambre et les gouvernantes dans les effectifs de l'hôtel, ce qui est pour nous une grande victoire, une première, alors que d'habitude c'est plutôt dans le sens inverse.
Et alors surtout que, grâce à vous, j'avais découvert que des femmes de chambre étaient payées à la tâche, ce qui était interdit, et donc ça c'est fini.
C'est fini, le travail à la chambre est terminé dans cet hôtel, elles sont payées, il y a une pointeuse, elles sont payées pour le temps de travail réellement effectué dans cet hôtel.
Et elles sont payées combien de l'heure ?
Alors actuellement, donc, les salaires varient de 12 euros brut de l'heure pour la gouvernante à un peu plus de 10 euros pour les femmes de chambre, mais avec des contrats stables, des heures régulièrement payées, les heures complémentaires, les heures supplémentaires. Voilà, c'est vraiment pour nous une grande victoire. Avec cette internalisation, elles vont pouvoir bénéficier du statut des salariés de l'hôtel, c'est-à-dire un 13e mois, une prime d'habillage, déshabillage, des jours fériés garantis. C'est vraiment un plus pour elles.
C'est la fête alors ?
C'est la fête aujourd'hui, effectivement.
Bonjour à tous et bienvenue devant le Campanile Première Classe à Suresnes, où je suis en compagnie de Claude Lévy de la CGT et Emmanuelle Grette, directrice des ressources humaines pour le groupe Louvre Hôtel. Mais vous ne trouvez pas quand même que 28 jours pour obtenir un accord, c'est très long, trop long?
Ben, si vous voulez, ce qui se passe actuellement, c'est que effectivement, pour pouvoir négocier, il faut être deux. Donc il faut aussi quelque part instaurer un rapport de force. C'est pas malsain pour moi. Je veux dire, il faut montrer à la direction que le syndicat est capable de peser sur ce qui se passe dans l'entreprise, enfin, est un interlocuteur finalement valable, et non pas simplement un faire-valoir pour discuter de tout et n'importe quoi. Donc, Louvre-Hôtel, je pense, la direction le dira mieux que moi, a apprécié effectivement le rapport de force qui existait dans cet établissement.
C'est incroyable comme expression. On apprécie un rapport de force.
Non, bon, non, mais apprécier.
On est content d'avoir quelqu'un qui est costaud.
Apprécier, c'est à jauger, à jauger. Le terme apprécier, voilà, on l'évalue, effectivement. C'est plus juste. À évaluer le rapport de force qui existe à Suresnes, à partir de là, elle est entrée en négociation avec la CGT. Il n'y a rien de honteux. Et on a trouvé un compromis, je dirais, qui, je pense, préserve les intérêts de tout le monde.
Mais on a quand même apprécié la négociation avec la CGT. Ouais.
Si, moi, ce que je trouve honteux, c'est que des femmes étaient payées 1,88€ pour faire le ménage d'une chambre d'hôtel et que, spontanément, on ne se dise pas « Non, c'est pas possible, quoi. On ne peut pas faire le ménage d'une chambre d'hôtel pour 1,88€. » Moi, ça me sidère, quoi.
Je laisse la parole à la direction, ça tu.
C'est parce que vous êtes trop bien payé. Non, c'est des femmes de chambre qui.
Nathalie, vous faites le ménage chez vous?
Ah oui, je fais le ménage chez moi.
Et vous mettez combien de temps pour faire le ménage dans votre chambre?
J'aurais du mal à l'évaluer parce que j'y vais par plusieurs étapes, donc je ne sais pas répondre à cette question-là.
Ah, on met quand même bien, moi qui fais le ménage aussi, je mets quand même. Je vais peut-être dire trois quarts d'heure pour faire le ménage dans la chambre si on veut faire bien et tout ça. Bon ben voilà, ça fait trois quarts d'heure quand on sait que c'est payé 1€.
Oui, mais vous ne le faites pas tous les jours.
Non, je ne le fais pas tous les jours.
Voilà, là on le fait tous les jours, donc c'est pas tout à fait non plus la
mais,
même.
Non, mais c'était insuffisant, c'était notoirement insuffisant. Nous on l'a dénoncé, on le dénonce depuis des années et des années, ce qui se passe dans l'hôtellerie, si vous voulez, avec la sous-traitance. Et je pense qu'effectivement, ce conflit et les discussions loyales qu'on a pu après avoir avec Louvre-Hôtel ont montré effectivement qu'il faut en finir avec ce système. Et je crois que, bon, peut-être Mme Grette ne vous le dit pas, mais elle est consciente qu'il faut en finir avec ce système, parce que c'est des bombes à retardement dans tous les hôtels. Je veux dire, le jour, effectivement, où arrive un syndicat à peu près digne de ce nom et qu'il arrive à mettre en route un peu les femmes de chambre et les gouvernantes de la sous-traitance, on a à tous les coups un conflit. Donc il y a différentes façons de gérer les choses socialement. Il y a ou la prévention, ou effectivement faire le pompier chaque fois que ça part. Je crois que Louvre-Hôtel, et c'est tout son mérite, a compris qu'elle a intérêt à peut-être à faire un petit peu de prévention. Et je dois dire que parallèlement à ce conflit qu'on a réussi à résoudre, on est actuellement en discussion, on espère bien aboutir, sur une charte sociale qui, pour le coup, touchera tout le groupe Louvre-Hôtel, de bonnes pratiques quand on ne peut pas faire autrement pour la direction que de prendre de la sous-traitance.
Je vous présente.
Salut. Salut.
Ah, vous avez gardé les slogans, hein.
On a gagné.
Ah
oui.
Et vous savez qui c'est la dame?
C'est la fête.
Vous savez qui c'est la dame qui est là?
Non.
C'est la responsable de la DRH de Louvre-Hôtel.
Ah bon?
Elles ont le sourire. Bonjour mesdames.
Donc c'est grâce à vous que l'accord a été trouvé?
Oh, c'est grâce à tous ensemble. Voilà.
Merci.
Nous aussi on est très contents.
Alors bonjour messieurs, dames. Je me présente Mariam. On a participé à la grève au mars 2012 jusqu'à ce qu'on termine la grève. Il y a M. Claude et M. Etienne qui nous ont soutenus jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on voulait. Franchement, ça n'a pas été facile. On vous remercie de vos soutiens jusqu'à aujourd'hui. Et merci, messieurs, dames. Bonne journée.
Alors, la vie est belle maintenant, vous ne voulez demander rien d'autre?
Oui, la vie est belle. On est content.
On est très contents.
Oui. Tout dans la famille est là.
Attends, caution, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain.
Ah oui, juste après Daniel Mermet. Et il ne fallait pas prendre ce prénom parce que déjà il n'en a pas assez. Et puis, mes amitiés à Daniel. Merci.
Dis donc, tu l'as acheté content ta voiture?
Ah ça oui, j'étais content.
Oh le boulet!
C'est la première voiture neuve que j'achète.
D'accord, mais je voulais savoir si t'avais fait un crédit.
C'est ce que j'ai fait, surtout que c'est simple, le crédit à la Matmut.
Crédit distribué par Matmut, intermédiaire en opération de banque, inscrit à l'ORIAS sous le numéro 13 5890 pour le compte exclusif de Socrane Bank.
Tu entends ça, le prix des audioprothèses?
Hein? Le prix des audioprothèses, 1 500€ par oreille, et la Sécu ne rembourse que 120€.
Vaut mieux entendre ça que d'être sourd.
Oui, mais mon banquier, lui, il veut rien entendre.
MMA, avec les audioprothésistes du réseau partenaire MMA Santé, tu payes tes audioprothèses jusqu'à 50% moins cher que les prix moyens du marché.
50% avec MMA.
Voilà une info douce à mon oreille. MMA.
Conditions sur MMA.fr ou en agence MMA.
France Inter, partenaire de Télérama Dialogue.
Cinéma,
musique,
littérature,
philosophie,
médias.
De Michel Serres à Jacques Higelin.
De Pierre Rabhi à Stromae.
De Fred Vargas à Arnaud Desplechin.
Télérama Dialogue, c'est 40 invités prestigieux.
Interviewés par nous tous, en public, au Théâtre du Rond-Point.
Retrouvez Télérama Dialogue dans Service Public le 20 septembre à 10h et sur franceinter.fr. Télérama Dialogue, le 23 septembre, une journée bouillonnante, pleine de rencontres, de 11h à 23h au Théâtre du Rond-Point, en partenariat avec la MGEN.
Ladies and gentlemen, the star of the show, Mr. Showmanship, Liberace.
France Inter présente Ma vie avec Liberace, le nouveau film de Steven Soderbergh avec Michael Douglas et Matt Damon au cinéma le 18 septembre. Avant Elvis, Elton John et Madonna, il y a eu Liberace. Michael Douglas incarne ce pianiste virtuose, bête de scène et star absolue. À ses côtés, Matt Damon tient le rôle de Scott, le grand amour de sa vie. Retrouvez Ma vie avec Liberace dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr. Vous écoutez France Inter, il est 16h. Le point sur l'actualité, Laetitia Gaillet.
Les retraites complémentaires vont être désormais versées chaque mois et non plus chaque trimestre, comme c'était le cas jusqu'à présent. L'AGIRC et l'ARCO l'ont confirmé cet après-midi. La mesure entrera en vigueur le 1er janvier prochain. Plus de 11 millions de retraités sont concernés. 300 millions d'euros pour des projets innovants. Jean-Marc Ayrault et la région Lorraine ont signé aujourd'hui à Matignon un pacte inédit qui prévoit donc des investissements État-Région. Ce projet court sur la période 2014-2016. La Lorraine connaît des difficultés industrielles dans certains secteurs, a dit le Premier ministre, mais a beaucoup d'atouts également. La CRIRAD, la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, estime aujourd'hui que la fuite de tritium à la centrale du Tricastin dans la Drôme relève d'un dysfonctionnement grave. Même s'il n'y a pas de risque pour l'environnement, il faut trouver l'origine de la fuite et la traiter. La CRIRAD a rappelé qu'un incident similaire était survenu en 2004 à la centrale de Cruas-Metz en Ardèche. À l'époque, l'eau contaminée avait été bue par les travailleurs du site. Au lendemain de la manifestation de soutien à Nice en faveur du bijoutier qui a tué un de ses braqueurs la semaine dernière à Toulouse, un bijoutier a été agressé ce matin, c'est la troisième fois en un an, et ce braquage fait écho chez la victime avec l'affaire de Nice, Stéphanie Glésis.
Jacques, le bijoutier de l'avenue de Muret, avait déjà été agressé deux fois depuis décembre dernier. En février, victime d'un coup de pied à l'œil gauche notamment, il avait déjà perdu une grande partie de sa vision. Ce matin, les deux braqueurs ont aspergé le voisinage de gaz lacrymogène des deux côtés de la vitrine avant de commencer à la défoncer à coups de masse pour tenter de voler les bijoux qui y étaient. Ils ont pénétré dans le magasin, ils ont à la fois gazé le bijoutier et raflé des bagues dans la vitrine principale, la vitrine de valeur, avant de prendre la fuite à scooter. Le magasin est pourtant sous surveillance vidéo. Corinne, la fille du bijoutier agressé.
Bon, maintenant, c'est un grand ras-le-bol. Lui, il avait déjà des difficultés à venir travailler tous les matins, à avoir un peu de motivation. Il venait avec la peur au ventre. Bon, maintenant, c'est un grand ras-le-bol. En plus, ça vient en écho avec ce qui a pu se passer à Nice. On l'a empêché de s'armer pour se défendre. On essaie de le dissuader de se défendre. Mais bon, ils attaquent toujours par surprise, à chaque fois à l'ouverture. Et puis, ils n'ont pas peur de s'attaquer physiquement aux bijoutiers. Pour eux, une vie ne représente pas grand-chose.
Ce petit bijoutier de quartier a décidé de fermer à la fin de l'année avec une liquidation dès le mois prochain. Et les commerçants alentours demandent à la mairie socialiste de la vidéoprotection pour le quartier. Toulouse, Stéphanie Glésis, France Inter.
Comme prévu, la cour d'appel d'Amiens a mis en délibéré sa décision aujourd'hui sur la requête en nullité déposée par la défense de Willy Brandon. Rendez-vous donc le 15 octobre prochain. Willy Brandon est poursuivi pour le viol et le meurtre d'Élodie Kulik en 2002. Paul Lantieri, lui, est libre. Le tribunal correctionnel de Marseille a ordonné aujourd'hui sa remise en liberté sous contrôle judiciaire. Paul Lantieri était incarcéré depuis mai lors du procès de la gestion frauduleuse du cercle de jeux parisien Concorde. Il a comparu aujourd'hui aux côtés de deux autres prévenus dans une autre affaire. Vous écoutez France Inter. 16h03.
Tous les samedis à partir de 20h, le grand rendez-vous live de France Inter, présenté par Valy.
Cette semaine dans Live Me Do au studio 105 de Radio France, place aux premiers albums avec la tournette canadienne qui chante en chiac, Lisa Leblanc.
Et attention à toi, mon petit gars.
L'amoureuse de la chanson française Messia.
Tu me ravis comme un courant d'air pur. À mes visites de courtoisie.
Et les Niçois et leur new wave electropop, Griefjoy.
Pour assister à l'enregistrement de l'émission, rendez-vous demain à partir de 18h devant la porte B de la Maison de Radio France. Yeah. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Je peux compter sur vous ?
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
France Inter.
La voix est libre.
Bonjour Frédéric Lodéon, c'est à vous.
Bonjour chère Laetitia, on vous retrouve à 17h.
À tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. On célèbre cette année l'anniversaire de Verdi, de Wagner, et on oublie parfois Charles-Valentin Alcan, pianiste étonnant, compositeur, ami de Victor Hugo, de Liszt, de Chopin, qui a disparu de la circulation pendant 10 ans. Il avait un caractère compliqué, peut-être des troubles, des angoisses, ce qu'on appelle aujourd'hui de la dépression. En tout cas, Alcan était un virtuose absolument extraordinaire et furieux. Voici un exemple, c'est tiré de 3 grandes études pour les mains séparées et réunies. Genre, quelquefois, c'est seulement une et quelquefois... Une autre, ou alors les deux ensemble. Là, c'est le numéro 3, mouvement semblable et perpétuel.